Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 19 décembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au cours de cette émission, le journal, les sports, la web radio de Telopea Park School de Canberra, Europe of Voice et aussi le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce dimanche 19 décembre. Les deux États les plus peuplés d'Australie, la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria, continuent de signaler des cas élevés de Covid-19, mais il est peu probable que les lockdowns reviennent. Le variant Omicron fait rage en Europe. En sport, l'Angleterre se prépare un dimanche crucial alors qu'elle se bat pour garder toute chance de regagner les Ashes. Et d'abord, en Australie, la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 2566 nouveaux cas de Covid-19, battant à nouveau le record du plus grand nombre d'infections quotidiennes signalées par un État ou territoire australien depuis le début de la pandémie en 2020. Il n'y a eu aucun décès lié au virus, mais il y a 227 personnes hospitalisées avec le virus, avec 28 patients dans les unités de soins intensifs, deux de plus que la journée de vendredi. Et le nombre de patients de Covid-19 dans le Victoria en soins intensifs reste stable. L'État ajoute ce dimanche 1240 nouvelles infections et 4 décès liés au virus. Il y a 392 patients infectés par le virus dans les hôpitaux de l'État, dont 81 en soins intensifs. La députée Chief Medical Officer Sonia Bennett a déclaré que l'augmentation des chiffres était une source de préoccupation et elle exhorte tout le monde à réfléchir à ce qu'il peut faire tout en profitant du temps avec la famille et les amis pendant la période des vacances de Noël.
Please enjoy that time with family and friends. Most borders are open. You're able to gather. But think about how you can do that in a safe way. And there's a range of measures. So first and foremost, I'd probably encourage everyone to think about continuing to wear masks, particularly in settings that are indoor, public indoor spaces that may not be well ventilated. Think about wearing a mask. It's a simple, easy thing to do.
Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a exclu une exemption de quarantaine pour les voyageurs qui ont reçu des vaccins qui ne sont pas approuvés par l'Australian Therapeutic Goods Administration. Cela comprend le vaccin Sinopharm pour les personnes de plus de 60 ans et le vaccin Sputnik. Les personnes qui ont reçu ces vaccins et qui entrent dans le pays font face à une quarantaine de tels de 14 jours, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui ont pris des vaccins approuvés.
Where somebody doesn't have a vaccine that's been approved in relation to Australia, then they are subject to the hotel quarantine. It is a difficult situation and I am sorry for those that would face that situation, but also recognise that we have to follow this medical advice about the safety and effectiveness of vaccination.
L'Organisation mondiale de la santé affirme que Omicron a été détecté dans 89 pays et les cas de Covid-19 impliquant le variant est en train de doubler tous les 2 à 3 jours dans les endroits où la transmission est communautaire et pas seulement les infections acquises à l'étranger. Des questions majeures sur l'Omicron restent sans réponse, notamment dans quelle mesure les vaccins Covid-19 existants sont-ils efficaces et si le variant produit une maladie grave chez de nombreuses personnes infectées? La croissance d'Omicron par rapport au variant Delta signifie qu'il est susceptible de dépasser bientôt le Delta en tant que forme dominante du virus dans plusieurs pays. Plus de 5,3 millions de décès dus au coronavirus ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. Voyons maintenant la situation en France avec Joanne Burgel pour Radio France international.
L'épidémie de Covid progresse et les services de réanimation du pays continuent de se remplir. Le nombre de malades du Covid en soins critiques dans les hôpitaux frôle les 3000 selon Santé publique France. Alors que des restrictions sont prises chez nos voisins européens, le gouvernement français entend tout faire pour inciter les personnes non vaccinées à le faire. Pour cela, le pass sanitaire deviendra un pass vaccinal. Autrement dit, il faudra être vacciné pour aller dans les lieux publics comme les restaurants ou les cinémas. Et ce n'est qu'une première étape, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin chez nos confrères de France Inter.
Nous souhaitons que le pass sanitaire devienne un pass vaccinal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'alternative de test pour entrer dans un établissement recevant du public qui applique le pass actuellement, c'est-à-dire les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres et les grands événements qui appliquent le pass. Mais nous souhaitons aussi que les parlementaires, à l'occasion du débat qui aura lieu, puissent réfléchir à des renforcements éventuels. Ce sera leur liberté de le faire. Transformer le pass sanitaire en pass vaccinal dans les transports tels que les trains et les avions, le Premier ministre l'a évoqué. Éventuellement, se poser la question d'un pass, pas vaccinal cette fois-ci, mais sanitaire, pour aller travailler. Ça fait partie des questions qui doivent être posées.
Olivier Véran qui a aussi assuré que la vaccination devrait être ouverte aux enfants âgés de 5 à 11 ans dès mercredi. Parallèlement, l'obligation vaccinale sera renforcée pour les soignants et les pompiers avec une dose supplémentaire de vaccin obligatoire à partir du 30 janvier.
Plusieurs pays d'Europe ont décidé de réimposer des mesures plus strictes pour endiguer la nouvelle vague d'infection au Covid-19. Les Pays-Bas ouvrant la voie en imposant un lockdown jusqu'au 14 janvier prochain. Chypre et l'Autriche ont également resserré les restrictions de voyage. Paris a annulé son feu d'artifice du Nouvel An. Le Danemark a fermé les lieux de divertissement. L'Irlande a imposé un couvre-feu dès 20h dans les pubs et les bars. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'il était essentiel d'encourager des taux élevés de vaccination.
We know that our healthcare systems are overstretched right now, and this is partly linked to the large number of unvaccinated patients. So in conclusions, the answer can only be to increase vaccination, to include children above 5 years old, boosting and protective measures. That has to be the answer we give to this new variant.
Et 2 ans après le début de la pandémie de coronavirus, les États-Unis sont confrontés au variant Omicron qui menace d'aggraver une hausse des cas de Covid-19. Les hospitalisations ont bondi de 45% au cours du mois dernier et les cas confirmés ont augmenté de 40% pour atteindre une moyenne d'une semaine de 123 000 nouvelles infections aux États-Unis par jour. Le docteur Anthony Fauci, le plus haut responsable américain des maladies infectieuses, a déclaré que davantage de personnes devraient se présenter pour leur premier vaccin.
We'd still have 50 million or more people in this country who have not yet even gotten their first vaccination. That is really unacceptable. If we want to get through the challenge of a Delta, which is bad enough, we're looking it straight in the face. And then over your shoulder is coming Omicron. That's a very tenuous and difficult situation. So we've got to do the things that are available to us. Vaccination, boosting, masking when you're in an indoor setting.
Aux États-Unis, toujours, les salariés des entreprises de plus de 100 personnes devront être vaccinés à partir du 4 janvier prochain. Précision de Nicolas Falaise pour RFI.
C'est une mesure sanitaire devenue un enjeu politique. L'obligation vaccinale des salariés des grandes entreprises américaines avait été annoncée par la Maison-Blanche dès le mois de septembre dernier et adoptée en novembre, mais aussitôt contestée. Pour la contrer, le Sénat avait voté un texte symbolique, sans effet. En revanche, une procédure en justice lancée par l'État du Texas, à majorité républicaine, avait entraîné la suspension de cette obligation vaccinale dans les entreprises de plus de 100 salariés. Un revers à l'époque pour le président américain Joe Biden. Nouvel épisode en fin de semaine. En appel, une cour fédérale a rétabli la mesure. Le Covid-19 a continué à se répandre, à muter, à tuer et à empêcher le retour en toute sécurité des salariés américains à leur travail, rappelle le tribunal dans son jugement. L'obligation vaccinale dans les grandes entreprises concerne des dizaines de millions de travailleurs américains. Elle doit donc entrer en vigueur le 4 janvier prochain, sauf si un nouvel obstacle se présenter, puisque la décision peut encore être contestée devant la Cour suprême des États-Unis.
Les présidentielles en France, Christiane Taubira, l'ex-garde des Sceaux de François Hollande, envisage d'être candidate à l'élection de 2022. Et hier, elle a visité le marché de Noël de Saint-Denis. Reportage Anthony Latier, RFI.
Elle est attendue par certains comme le Messie. Entourée par une nuée de caméras et de micros, Christiane Taubira peine à se frayer un chemin dans le marché de Noël de Saint-Denis, où elle récolte des marques d'affection et de soutien à son passage. L'ex-garde des Sceaux sous François Hollande appelle la gauche à se dépasser.
Or, effectivement, vous avez raison, c'est pas en 24 heures que moi, je vais faire des miracles et faire aboutir ce qui, depuis 18 mois, piétine. Mais il y a une obligation, et c'est le sens et la finalité de la politique. De répondre aux problèmes des gens. Et moi, je suis bien déterminée à porter ma part pour avoir les moyens d'agir pour améliorer la vie des gens.
La primaire citoyenne pourrait être, selon elle, la solution à l'impasse dans laquelle se trouve la gauche.
Ça semble effectivement le dernier espace où cette union pourra se construire. Nous verrons le temps utile.
Christiane Taubira se donne encore du temps, pas encore candidate, mais déjà en campagne.
Et on passe au référendum d'hier à Taïwan avec l'échec du parti nationaliste chinois. 4 questions étaient posées aux quelque 19 millions d'électeurs. Explication d'Adrien Simor pour RFI.
Le parti nationaliste chinois avait fait de ces référendums un vote de défiance envers la politique du gouvernement taïwanais, gouvernement qu'il accuse de soutenir l'indépendance de Taïwan et de vouloir se rapprocher excessivement de son partenaire américain. Au total, 4 questions étaient posées aux quelque 19 millions d'électeurs taïwanais, des questions techniques portant notamment sur l'importation de viande américaine ou encore la construction d'un terminal gazier dans le nord de Taïwan. Mais avec seulement 41% de participation, aucun ne s'est attiré suffisamment de voix pour être validé. Pire, la position du gouvernement a même été confortée dans chacun des 4 scrutins. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen sort donc largement renforcée par cet exercice. Un soutien bienvenu pour le gouvernement alors que les pressions de la Chine se sont intensifiées sur Taïwan ces derniers mois. Le prochain test pour le parti au pouvoir est désormais attendu le 9 janvier prochain. Le député Freddy Lim, célèbre rocker connu pour ses positions indépendantistes, est visé par un référendum révocatoire. Un scrutin également à l'initiative du parti nationaliste chinois.
Les Chiliens vont aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle pour choisir soit l'avocat d'extrême droite José Antonio Kast ou Gabriel Boric, figure des manifestations étudiantes de 2011 pour une éducation gratuite. Le sommet Afrique-Turquie a pris fin hier à Istanbul. 16 présidents et chefs de gouvernement ont fait le déplacement. Il y a eu à la fin la signature d'un plan de coopération pour les 5 prochaines années. Reportage de Charlotte Cossé pour RFI.
Malgré des annulations de dernière minute, 16 présidents et chefs de gouvernement, une centaine de ministres ont fait le déplacement en cette période de pandémie. Objectif, valider ce programme de coopération détaillé sur une dizaine de pages et résumé par le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Nous améliorerons les secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture, le développement humain grâce à des échanges de connaissances, ce que nous avons amorcé aujourd'hui. Pour améliorer la prospérité de nos peuples, gagnons ensemble, prospérons ensemble, grandissons ensemble.
Et pour mener à bien ce programme ambitieux, le président turc l'assure, ministères, institutions et secteurs privés ont déjà été mobilisés. Parmi les grands dossiers, le président congolais Tshisekedi met en avant l'industrie et celle des énergies renouvelables, par exemple.
Pour cela, nous avons besoin d'investissements, nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin d'accompagnement. Et la Turquie se montre particulièrement intéressée et disponible en se mettant à nos côtés pour ensemble nous aider à réaliser ces défis.
Un mécanisme de suivi des projets doit être mis en place. Un point d'étape est déjà prévu dans 2 ans et le prochain grand sommet de ce genre fixé à 2026 et cette fois-ci sur le continent africain.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 26 degrés. Adélaïde, 22. Melbourne, 25. Hobart, 24. Canberra, 28. Sydney, 34. Brisbane, 30. Cairns, 33. Darwin, 35. Et à Alice Springs, 42. Oui, j'ai bien dit 42. Voilà. Et en rappel des grands titres de ce dimanche 19 décembre, les deux États les plus peuplés d'Australie, la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria, continuent de signaler des cas élevés de Covid-19, mais il est peu probable que les lockdowns reviennent. Et puis le variant Omicron fait rage en Europe. Fin du journal et merci de rester avec nous pour le reste de l'émission.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le championnat du monde de handball avec la France qui jouera la Norvège en finale ce dimanche. Les Bleus visent leur 3e titre mondial. Christophe Diremzian sur place en Espagne pour RFI.
Dans leur hôtel barcelonais face à la mer, l'heure est à la décontraction après une soirée d'émotion. Jogging gris, claquettes chaussettes, les Bleus déambulent dans le hall après la traditionnelle séance vidéo sur l'adversaire. Même si vendredi soir, c'est davantage à leur courage qu'à l'image qu'elles ont dû leur victoire, la capitaine Coralie Lasource ne réalisait pas encore tout à fait.
Déjà dans les vestiaires, c'était assez bizarre parce qu'on était toutes contentes. On s'est dit, waouh, on l'a fait quoi. Non mais c'est... Est-ce que c'est réel? Dans la chambre, ben ouais, on s'est dit, franchement, un scénario de folie. On n'a pas lâché en fait. Et je ne sais pas trop quel mot utiliser pour définir ce qu'on ressent à l'heure actuelle.
Sans doute une immense fierté d'être à un match d'un nouveau sacre international, à peine 4 mois après être monté sur le toit de l'Olympe. L'exploit serait d'autant plus fort que personne ne l'envisageait au bout d'une année mentalement usante, pas même le sélectionneur Olivier Krumbholz, qui avait d'ailleurs laissé la plupart des cadres souffler lors du rassemblement de reprise en octobre.
La période post-olympique a été assez terrible. Rentrer avec une médaille d'or et derrière avoir un vrai spleen. C'est paradoxal. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, en fait, comme souvent. Maintenant, il y a toujours cette détermination d'aller chercher quelque chose et aujourd'hui d'être convaincu qu'elles peuvent le faire.
Première à en être persuadée, Pauletta Foppa, la jeune pivot prodige de 20 ans, déjà championne d'Europe et olympique, meilleure buteuse française du mondial pour l'heure avec 26 réalisations. Comme ses coéquipières, elle s'est très vite remise du match contre les Danoises pour se rouvrir l'appétit.
On n'est vraiment pas rassasiés. La preuve, hier, je pense qu'on s'effondre par terre parce que le scénario était juste ouf. Mais par exemple, aujourd'hui, plus personne n'en parle, entre guillemets, parce qu'on sait que on n'a pas terminé. Tout le monde veut décrocher l'or et on est vraiment focalisé sur la dernière marche. Donc on sera rassasié, entre guillemets, quand on aura remporté l'or.
Mais encore une fois, les Françaises devront éteindre la convoitise des Norvégiennes, championnes d'Europe aux dépens des tricolores l'an passé, et prenant ainsi leur revanche sur la finale perdue du Mondial 2017 face aux joueuses d'Olivier Krumbholz, conscient que remporter cette nouvelle manche ne se fera pas sur les bases de la demi-finale.
Moi, je suis focus sur notre capacité à beaucoup mieux jouer que ça. Quand on regarde la fin des Jeux Olympiques, comme on a joué en attaque, c'était nettement meilleur. C'est surtout ça qui est important, d'autant plus qu'avec la fatigue, si on ne retrouve pas de la qualité de jeu, ça va être très difficile et peut-être des forces qui s'expriment venant du banc ou de filles qui pour l'instant n'ont pas forcément performé. Je crois que ça va être impératif maintenant. C'est la dernière chance de mettre le nez à la fenêtre.
Le Messin, d'ores et déjà assuré d'une 13e médaille internationale, soit une de plus que Claude Onesta chez les hommes, peut aussi, avec ses joueuses, confirmer la continuité des résultats du hand français à 60 minutes minimum d'asseoir une domination jamais vue dans son histoire.
On passe au foot avec l'Algérie qui a remporté la Coupe arabe de 2021 au Qatar contre la Tunisie après les prolongations 2-0. Sarah Loubacouche RFI.
Des Algériens inarrêtables 2 ans après avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fennecs viennent donc de glaner un nouveau titre au Qatar en remportant la Coupe arabe. C'est la toute première fois que l'Algérie obtient ce trophée. Une victoire au terme d'une finale haletante. La Tunisie, les outsiders voulaient créer la surprise. Elle a su être combative, 0 partout dans le temps réglementaire. Le titre s'est donc joué aux prolongations. Une délivrance signée Amir Sayoud et Yassine Brahimi. D'ailleurs, Brahimi est le meilleur joueur de la compétition. Tout semble donc sourire au Fennec. Sur un petit nuage, le défenseur central Mehdi Tarat est très confiant pour l'avenir de sa sélection.
On a vu des images qui nous ont fait chaud au cœur. On est très content de pouvoir donner un peu de joie. Après, c'est une confirmation. On est dans la continuité de ce qu'on fait depuis un certain temps, avec les A et avec les plus jeunes en A prime. Je pense que, voilà, pour tous ceux qui ont joué, vous avez vu, il y a eu un état d'esprit irréprochable, il y a du talent. Donc, je pense que l'Algérie a encore de beaux jours à venir.
Des propos recueillis par Abdennour Nouiri. À noter que l'autre finale du jour a aussi eu droit à des prolongations. La petite finale, c'est la finale pour la 3e place, opposer le Qatar à l'Égypte. Et c'est le Qatar, le pays organisateur, qui a fini par s'imposer au tir au but à 1 an de sa Coupe du Monde.
La Coupe de France, les 32e de finale, il y avait quelques matchs hier, et la victoire de Rennes contre Lorient 1-0, victoire aussi de Lille contre Auxerre, 3-1. Et puis en Angleterre, il y avait beaucoup de matchs reportés à cause du Covid, mais il y avait un seul match qui a été joué, Arsenal 4e, qui s'est imposé contre Leeds, 4-1. En Espagne, Séville 2e au classement, a battu l'Atlético de Madrid 2-1, et le FC Barcelone s'est imposé contre Elche 3-2. En Allemagne, le Borussia Dortmund, 2e au classement, battu par Hertha Berlin, 3-2. Et maintenant, retour sur le tirage de la Ligue des Nations, la compétition de foot qui se déroulera en juin de 2022. Olivier Pron, RFI.
Vous savez, cette compétition dont on ne comprend pas grand-chose au règlement et dont la France a remporté récemment quand même la 2e édition, tirage au sort donc hier, de la prochaine, on s'en réjouit, elle se déroulera entre 2022 et 2023, début juin hein, pour être précis, le début. Un sort malicieux qui a placé l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie avec la Hongrie dans un groupe 3 très relevé. La France, elle, s'en sort nettement mieux, comme souvent. Elle hérite d'une poule qui comprend la Croatie qu'elle avait battue en finale de la Coupe du Monde 2018, on s'en souvient. Il y a aussi le Danemark et l'Autriche. Il faudra terminer en tête pour accéder aux demi-finales. Et le sélectionneur Didier Deschamps, qui reconnaît quelque chose au rayon chance, eh bien, il estime que c'est tout sauf gagner d'avance, hein, bien sûr.
Vu le placement dans les pots 2 et 3 de certaines grandes nations, évidemment que l'équipe de France aurait pu avoir sur le papier, je le répète, un tirage plus compliqué, mais j'ai suffisamment de respect pour toutes les nations. Et le Danemark qui a été demi-finaliste du dernier Euro, la Croatie qu'on connaît bien, et puis l'Autriche aussi. Donc 2 de ces 3 pays sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde et il reste l'Autriche qui a des matchs de barrage au mois de mars, mais au-delà de ça, ça nous permettra, en vue de la prochaine Coupe du Monde, d'avoir des adversaires dans notre préparation avec des profils différents. Donc, c'est toujours un plaisir de jouer les meilleures nations européennes.
Didier Deschamps, au début de cette Ligue des Nations en juin.
En Côte d'Ivoire, l'élection du président de la Fédération de foot ne se tiendra pas avant mars de 2022. Précision de Youen Gourlet pour RFI.
Le feuilleton en est peut-être enfin à son dénouement. Après des mois de crise et alors que les critiques sont de plus en plus vives à l'égard de Mariam Daogabala, la présidente du comité de normalisation, de nouvelles dates ont été annoncées. Pour enfin sortir de cette crise, Frédéric Konan-Kwadio, directeur de la communication du comité, a dévoilé jeudi soir les échéances à venir. 3 assemblées sont prévues après la CAN au Cameroun, les 2 premières en février sur l'examen et l'adoption des textes et des comptes de la fédération. La 3e, probablement mi-mars, doit aboutir enfin à l'élection du président de la FIF. 3 candidats sont en lice pour ce poste très convoité depuis des mois, les anciens vice-présidents de la FIF, Sori Diabaté et Idriss Diallo, et l'ancien international Didier Drogba, grand favori de la population ivoirienne, mais pas forcément du corps électoral. La crise est d'ailleurs née il y a plus d'un an du rejet de la candidature de l'ancien joueur de Chelsea. Le nouveau calendrier sera annoncé au club des 3 premières divisions ivoiriennes ce week-end à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan, ce qui devrait calmer le monde du foot ivoirien très tendu depuis 3 semaines et l'annonce du report de l'élection initialement prévue ce 20 décembre.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. 13h29 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et je passe maintenant l'antenne à mon collègue Christophe pour la dernière édition de Europa Voice avec le président français Emmanuel Macron qui espère profiter de la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour créer une séquence positive à l'approche de l'échéance de 2022.
La France va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier. Alors, ça a l'air anodin comme ça, mais ça n'arrive pas tous les ans, vu le nombre de membres de l'Union européenne. Et donc, c'est un moment important pour énormément de gens en France, pour la politique française, et puis pour un homme, Emmanuel Macron également.
C'est, Christophe, effectivement extrêmement important pour la politique française, comme vous l'avez mentionné, et pour le président français Emmanuel Macron, pour la simple et bonne raison qu'il veut en faire un atout pour sa réélection au premier semestre prochain, parce qu'à ce moment-là, pendant les élections présidentielles, Emmanuel Macron assurera, alors pour les puristes, pas la présidence de l'Union européenne, mais la présidence du Conseil de l'Union européenne, ce qu'on appelle la PFUE. Donc effectivement, pour Emmanuel Macron, il y a ça, c'est le premier élément d'importance, c'est comment faire un tremplin, comment utiliser l'Europe, et on sait qu'Emmanuel Macron est plutôt bon sur la scène internationale et plutôt bon dans l'image qu'il donne de la France à l'international. Donc comment est-ce qu'il veut en faire un tremplin pour sa réélection, même si entre vous et moi et nos auditeurs d'SBS, il n'est pour l'instant pas candidat à sa propre réélection. Mais d'abord le premier point. Et puis le deuxième point, Christophe, c'est qu'avec le départ d'Angela Merkel, après 16 années à la tête de la chancellerie allemande, Emmanuel Macron est le leader naturel européen avant que le prochain chancelier ne fasse, j'allais dire, ses preuves et ne s'insère véritablement chose dans la relation franco-allemande et au sein du moteur franco-allemand pour l'Union européenne. Donc,
alors là justement, Nathanaël, excuse-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on peut dire que au niveau calendaire, Emmanuel Macron a tiré le jackpot? Est-ce que de ce point de vue-là, ça peut vraiment être quelque chose qui peut le différencier de tous les autres candidats qu'on peut trouver en France pour lui donner cette stature présidentielle à un niveau plus large même que les frontières françaises? Donc ouais, la question c'est, avec cette présidence de l'Union européenne, est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron a tiré le jackpot?
Je pense qu'effectivement, c'est une bonne séquence. Alors encore une fois, c'est à la fois hasard du calendrier et hasard des événements, le fait que Angela Merkel se retire de la vie politique allemande. Mais effectivement, je crois que sur la scène d'abord nationale, si on prend cette question-là par rapport au présidentiel, sur la scène nationale, l'affirmation d'Emmanuel Macron de vouloir une Europe, et je le cite, une Europe puissante dans le monde, mais aussi pleinement souveraine, et ça c'est une phrase que je trouve extrêmement intéressante du président français, c'est il veut passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Donc en fait, dans la tête des gens, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que si effectivement c'est la France qui est à la tête de l'Europe et qui mène la danse, et qu'on a une Europe qui est souveraine, libre de ses choix et maître de son destin, bah par extension, c'est-à-dire qu'on a aussi une France plus souveraine, plus libre de ses choix et maître de son destin, et qui en plus est capable d'emmener le paquebot européen avec elle. Donc ça je pense que c'est un premier élément qui peut toucher une grande partie de son électorat, ces notions de, encore une fois, de souveraineté, de maîtrise de son destin. Et puis pour les Européens déjà convaincus, le fait qu'Emmanuel Macron se pose encore une fois en chef de file des pro-européens, et ça c'est pour le coup, il y a une stabilité dans son engagement pro-européen et dans le groupe Renaissance Renew Europe depuis les dernières élections européennes, et ben ça conforte aussi encore un peu plus que finalement dans l'échiquier politique français aujourd'hui, la gauche est un peu inexistante. C'est pas forcément à droite et encore moins à l'extrême droite qu'on va trouver des Européens convaincus. Donc la seule personne capable de mener une France dans une Europe souveraine, pragmatique, maître de son destin, c'est Emmanuel Macron. Donc je pense que c'est effectivement un bon momentum, comme on appelle en communication, pour Emmanuel Macron d'avoir cette présidence du Conseil de l'Union européenne.
Alors, ça veut dire quoi justement avoir la présidence du Conseil européen parce qu'on est, on sait que chaque pays a une voix et que chaque pays tente à se faire entendre. Hein, on l'a vu au gré de toutes les années et tous les épisodes de cette Europa Voice. Globalement, la pression est quand même assez forte de chaque pays au niveau européen. Donc, quelle est la différence d'avoir la présidence européenne pour 6 mois? On rappelle que c'est une présidence tournante. Ça veut dire quoi justement pour Emmanuel Macron, mais également pour la France en elle-même?
Bah, ça veut dire qu'en fait, vous, d'une certaine façon, vous êtes le chef d'orchestre hein, pendant ces 6 mois, et c'est vous qui annoncez. Alors évidemment, il y a les mécanismes européens, il y a les institutions européennes, il y a les processus déjà en place, il y a le Parlement, il y a le Conseil, il y a la Commission. Enfin, tout ça, ne change pas, hein, quelle que soit la présidence de ce Conseil de l'Union européenne. Mais c'est simplement, si vous voulez, la traduction politique. De la musique que vous voulez donner à l'Union européenne pendant les 6 mois de cette présidence tournante. Par exemple, Emmanuel Macron, alors il y a aussi une part évidemment de communication politique, mais il a dit que sa présidence, cette présidence-là, il voulait qu'elle s'articule autour de 3 axes. La relance, hein, évidemment la relance après la crise du Covid. Voilà, ça y est, maintenant comment est-ce qu'on va de nouveau avoir une Europe du plein emploi, comment est-ce qu'on va repenser le cadre budgétaire de Maastricht, c'était un point important de sa déclaration. Donc c'est d'abord l'Europe de la relance, ensuite la puissance, c'était le deuxième mot, le deuxième axe. Donc ça c'est la puissance, c'est une Europe puissante dans le monde, hein, encore une fois, une Europe souveraine et qui est une puissance dans le monde. Et je l'avais dit déjà dans un dernier numéro d'Europa Voice, c'est pas entre les États-Unis et la Chine, mais c'est avec les États-Unis, avec la Chine, il faut qu'il y ait une Europe puissante, il faut qu'il y ait une Europe aussi, une politique de la défense commune. Emmanuel Macron a aussi rappelé un réengagement de l'Union européenne dans les Balkans. Hein. Il est conscient de 2 choses. Il est conscient à la fois que l'Europe a une responsabilité à l'égard des Balkans occidentaux et qu'il faut mieux intégrer économiquement cette région au sein de l'Europe, parce que sinon ça va tomber sous le joug ou turc ou russe. Et puis deuxièmement, il va falloir un moment se résoudre à répondre à la question de quid de l'avenir européen de pays comme l'Albanie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo et la Macédoine du Nord. Donc vous voyez, donc là on est vraiment sur ces aspects de puissance. Et puis le dernier axe, donc après la relance et après la puissance, c'est l'appartenance. C'est comment est-ce que on crée un sentiment d'appartenance européen. Et donc pour l'instant, il a déjà élaboré quelques pistes, notamment un service civique européen de 6 mois pour les moins de 25 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment une musique politique. C'est voilà, c'est quoi le programme, c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre en tant que présidence tournante pendant les 6 mois de votre présidence. Quelles sont les priorités, quels sont les axes, et puis déjà des grands rendez-vous quand même, des meetings, des agendas. Emmanuel Macron, encore une fois, hein, c'est tout neuf, hein, ça date de la semaine dernière, mais a déjà prévu l'organisation d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine les 17 et 18 février prochains à Bruxelles pour proposer, alors encore une fois, on est entre la politique et la communication politique, Christophe, mais pour proposer un New Deal économique et financier pour refonder en profondeur la relation, et là je le cite, un peu fatiguée entre les deux continents. Donc vous voyez, on est sur du programmatique à la fois, mais aussi déjà sur des grands rendez-vous internationaux.
Et juste parce que tout n'est pas forcément positif, ça peut être à double tranchant, parce que la crise du Covid est en train de s'intensifier en Europe, et ça serait aussi se mettre en avant sur la gestion de la 5e, 6e, 4e, selon quel pays on est, vague de Covid à travers le continent européen. Donc ça peut aussi être un retour de bâton qui peut être à double tranchant pour Emmanuel Macron.
Oui, alors effectivement, Christophe, on est, vous avez raison de dire que on peut avoir des événements, j'allais dire imprévisibles, imprévus, qui peuvent faire que la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, vous devez affiner certains axes, vous devez changer de priorité. Après, ce qui est aussi vrai, encore une fois, on est sur une programmation politique, on est sur un projet politique, et si on prend la gestion du Covid, pour nos auditeurs, on est sous la présidence là. Du Conseil de l'Union européenne, présidence slovène, mais on l'a bien vu, on n'a pas non plus accusé la Slovénie d'avoir raté ou d'avoir réussi à rattraper le retard qui avait été pris par rapport à la vaccination en Europe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pour moi surtout un objet politique, mais qu'à côté de ça, on a toujours les institutions européennes. Et d'ailleurs, c'était surtout Ursula von der Leyen qui avait été mise en avant pendant la gestion du Covid. Et rappelez-vous-en, on avait parlé un démarrage assez lent de l'Union européenne pour après voir quand même une harmonisation au niveau de l'Union européenne, une mutualisation des moyens, etc. Donc, j'allais dire, c'est plutôt, pour moi, cette présidence tournante, et notamment dans ce contexte-là des élections avec Emmanuel Macron, pour moi, c'est surtout un bénéfice pour lui parce qu'il va pouvoir en tirer tous les effets positifs qu'il voudra. Et puis, s'il y a des choses qui se passent mal, et c'est un petit peu cynique de dire ça, mais ce sera de la faute de l'Europe, des institutions, et pas tellement de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe, et je vous souhaite une très bonne fin d'année sous le signe de l'Europe.
Voilà, tout à fait. Pareil, bonne année à vous, bonne année à toi, Nathanaël, et bonne année à tous nos auditeurs qui ont pu nous suivre et nous faire confiance pendant cette année 2021, qui a été à la fois compliquée mais intéressante. Et on reviendra courant janvier pour de nouveaux épisodes, notamment l'épisode 91 d'Europa Voice. Merci à tous et merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.
Et on continue l'émission avec cette fois la web radio de Telopea Park School avec l'après-Covid enregistré par les enfants de la classe de 6e de ce lycée franco-australien basé à Canberra. La question posée était: qu'as-tu pensé de la période de confinement et de la vie après le Covid?
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Nous avons demandé aux enfants du lycée franco-australien de Canberra ce qu'ils pensent de la période de confinement et comment ils ont vécu cela, et surtout ce qu'ils pensent de la vie après le Covid. Leurs réponses sont très intéressantes. Écoutez donc un peu.
La Covid, c'était très ennuyant et ça me fait penser beaucoup à la liberté que j'ai eue et j'ai pas vraiment pensé à comme aller au supermarché quand je veux et aller voir les amis et donner des câlins.
Pendant le Covid, apprendre était assez intéressant. C'était un petit peu plus dur de prendre des leçons, mais pour faire du travail comme les exercices et les tests et tout ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus simple. Mais quand on est revenu à l'école, il y avait toutes ces règles que moi j'ai trouvé très intéressantes, car il y avait quelques-uns que, à mon avis, on n'avait pas trop besoin d'avoir.
Donc, dans le Covid, c'était très stressful parce que il y a toutes les choses étaient comme cancelled. Mais après le Covid, le vie va être changé parce que toutes les personnes vont comme maintenant aller back au Australie et il va pas être de Covid et on peut aller tous les lieux, pas avec des masques, et ça va être très bien et pas très stressful. Et oui, ça va être très easy.
Et moi, je crois que on va pas trop être, ça va pas être la même chose qu'avant, car on sait pas s'il va avoir de nouveaux cas ou plusieurs cas demain. C'est possible que demain, peut-être le nombre, ça va y aller à 100 et on va devoir y aller repartir en quarantaine ou en lockdown. Donc,
je pense que après le Covid, tout le monde pourra visiter leur famille comme avant. Je veux qu'on peut voyager et prendre des vacances comme avant Covid.
Je pense que après le Covid, les personnes seront plus conscientes des libertés qu'ils ont et ils seront aussi très, je sais pas comment dire, je pense plus
sensitive à les bactéries.
Après le Covid, on va être plus attentif à ce qu'on fait quand on va à l'école et au magasin et au restaurant. Et aussi, on va être plus attentif qu'on fait quand on y va en public avec les maladies et tout ça.
Mais c'est bien parce que tout le monde va être libre après le Covid et commencer une nouvelle vie.
Nous revenons à présent sur une personnalité en lien avec l'actualité. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Aujourd'hui, focus sur la journaliste et militante vietnamienne Pham Duan Trang.
Pham Duan Trang, elle est âgée de 43 ans et elle vient d'être condamnée par un tribunal de Hanoï, la capitale du Vietnam, à 9 ans de prison, tout à la fois journaliste, écrivaine, blogueuse, activiste. Pham Duan Trang est accusée par la justice vietnamienne de propagande anti-État, accusée entre autres de déclarations susceptibles de déstabiliser la vie sociale, accusée de diffamer le gouvernement du Vietnam et d'inventer de fausses nouvelles. Elle a été arrêtée en octobre 2020, il y a plus d'un an, et elle était depuis en résidence surveillée. La voilà condamnée à 9 ans de prison. Le juge a estimé, je cite, qu'elle devait être sévèrement punie. C'est un message envoyé à toutes ceux et celles qui voudraient au Vietnam contredire le pouvoir dans un contexte de durcissement où les autorités vietnamiennes entendent contrôler tout ce qui se dit, notamment sur les réseaux sociaux. Et au-delà du cas de Pham Duan Trang, qui est la figure la plus emblématique de cette contestation, d'autres journalistes ont été interpellés, condamnés ces dernières semaines au motif que leurs publications véhiculaient des pensées réactionnaires ne servant pas les intérêts du pays. Tous les journalistes qui tentent de mettre à jour des supposés scandales d'État, la corruption, les catastrophes écologiques, tout ce qui serait caché au grand public, tous ces journalistes qui tentent de rendre public ce genre d'informations se retrouvent aussitôt muselés, interpellés par les autorités.
Qui est exactement Pham Duan Trang ? Parlez-nous d'elle.
Elle est née en 1978 à Hanoï. Elle a commencé sa carrière de journaliste dans les médias d'État, mais très vite, elle s'en est démarquée. Et depuis 15 ans, Pham Duan Trang est devenue l'une des figures de la contestation du régime. Le pays, le Vietnam, est dirigé, rappelons-le, par le Parti communiste, parti unique. Le Vietnam, qui compte près de 100 millions d'habitants, depuis le début des années 2000, même milieu des années 90, il y a eu une volonté d'ouverture économique. On est passé de la planification socialiste à une économie plus libérale, à l'image de ce qu'a fait la Chine, avec des échanges avec le reste du monde qui se sont intensifiés. Mais d'un point de vue politique, le Vietnam reste dirigé d'une main de fer par le Parti communiste, un État autoritaire où la liberté d'expression, les libertés fondamentales, comme on l'entend peut-être en Occident, sont étroitement encadrées, surveillées. Quand il n'y a qu'un seul parti, parti unique, forcément l'expression de la pluralité, de la différence s'avère compliquée. Pham Duan Trang a expliqué lors de l'audience de son procès que depuis 2015, elle avait ainsi été arrêtée 25 fois et régulièrement intimidée, terrorisée par la police vietnamienne. En 2016, le président américain Barack Obama était venu en visite à Hanoï. Il avait évoqué le nom de Pham Duan Trang, l'invitant même à prendre part à un rassemblement d'activistes, mais elle en avait été empêchée par les autorités. Dans ses écrits, dans ses blogs, Pham Duan Trang a dénoncé ces dernières années, des catastrophes écologiques, le déversement par exemple de produits toxiques dans les rivières. Elle a pris position en faveur des droits des personnes LGBT. Elle a mis en ligne des magazines, elle a écrit un livre, Policies of a Police State, où elle documente la répression de l'État vietnamien contre toute expression contraire au régime. En 2019, elle écrivait « Juste au cas où je serai emprisonné, je ne veux pas la liberté pour moi seul, je veux la liberté pour le Vietnam ».
Comment réagit la communauté internationale à sa condamnation à 9 ans de prison ?
Oui, bien les organisations de défense des droits de l'homme, des droits humains qui la soutiennent depuis des années ont réagi, bien évidemment. Human Rights Watch, qui estime qu'en ce moment au Vietnam, 146 personnes sont détenues pour avoir simplement exercé leurs droits fondamentaux. Human Rights Watch avance qu'en la poursuivant, les autorités vietnamiennes montrent à quel point elles redoutent les voix critique et populaire. On peut citer encore Reporters sans frontières qui avait salué en 2019 le courage de Pham Doan Trang en lui remettant le prix RSF pour la liberté de la presse. Eh bien, RSF condamne, je cite, « une justice politique aux ordres du parti au pouvoir dont le seul but est de punir une journaliste, Pham Doan Trang, qui a simplement tenté d'informer ses citoyens ».
Merci Émile pour ce coup de projecteur sur la journaliste et militante vietnamienne Pham Doan Trang.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.